sur les ondes de CIBL, de retour à l'émission Pour un Québec apprenant, une émission réalisée en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes. Saviez-vous qu'au Québec, c'est un droit pour chaque adulte d'être alphabétisé et d'acquérir un diplôme d'études secondaires? Selon l'article 2 de la Loi sur l'instruction publique, toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement, et ce, dans le cadre des programmes offerts par les commissions scolaires. Tout adulte doit donc avoir accès en tout temps aux formations menant au diplôme d'études secondaires.
Eh bien, il est 13h30 et en début d'émission, nous avons parlé des dernières promesses électorales du Parti québécois. Reste à voir ce qui sera mis en chantier au cours des prochains mois. Et bon, on va tenter d'être un peu plus précis envers les attentes, les besoins actuels sur le terrain en termes d'éducation aux adultes. Et on a demandé à trois groupes de venir exprimer aujourd'hui à notre micro leur vision sur l'éducation aux adultes et ce qui devrait être mis en place au cours des prochains mois. Et on va débuter par le Mouvement québécois des adultes en formation avec Catherine Jasmin, secrétaire générale du mouvement. Bonjour Catherine.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très bien, merci. Et tout d'abord, peut-être nous décrire ce que vous faites, vous, sur le terrain, votre mandat dans la vie de tous les jours.
Bien, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que nous, on promouvoit le droit des étudiants adultes d'avoir accès à une éducation, une formation de qualité. On encourage les adultes à pouvoir se regrouper. Donc, nous, on représente les adultes en formation des trois secteurs d'éducation, c'est-à-dire les centres d'éducation des adultes, formation secondaire générale, les centres de formation professionnelle et les cégeps et les universités, évidemment. Le mouvement a vu le jour en 2005 lors de son troisième colloque des adultes en formation suite à une constatation du fait que les adultes avaient besoin de se regrouper, particulièrement là, les adultes du secondaire général et professionnel, parce qu'il n'existe pas au Québec, malheureusement, une cellule, une plateforme, disons, pour que ces adultes-là puissent se représenter au sein de la société. Donc, autrement, comme je dis souvent, pour faire des lavotos ou des fêtes scolaires.
D'accord. Donc, vous avez 7-8 ans derrière la cravate d'expérience sur le terrain. Et là, vous, votre besoin, en fait, si vous pouviez écrire une grande ligne en haut du prochain plan gouvernemental, ce serait ce besoin d'avoir des associations pour les étudiants, pour les adultes sur les bancs d'école. C'est pas le cas du tout en ce moment, donc.
Non, en effet. Bon, ce qui existe, premièrement, il y a la loi sur l'instruction publique. Ce qui demande à chaque directeur d'école à la rentrée en septembre de former des conseils d'élèves. Longtemps, on a cru que la loi n'était tout simplement pas respectée, mais ce qu'on a appris, c'est que cette loi-là concernait le secteur des jeunes, ne touche donc pas les adultes. Et les adultes cégep et université, eux, ont la loi 32, donc la loi sur l'accréditation des associations étudiantes, l'accréditation et le financement des associations étudiantes. Donc, ces adultes-là, eux, peuvent se regrouper, peuvent bénéficier de cotisations étudiantes, peuvent se représenter au sein de la société, au sein des instances décisionnelles, peuvent faire valoir leurs revendications, peuvent discuter, peuvent négocier. Mais cette loi-là ne couvre pas les adultes du secondaire. Donc, les adultes des centres de formation générale et professionnelle sont dans un vide juridique. C'est une erreur historique qui nous est maintenant reconnue, mais jusqu'alors, jusqu'à récemment, là, en décembre 2011, cette erreur-là n'était pas connue.
D'accord. Et là, vous, donc, en ce moment, en fait, que pourraient gagner exactement les adultes sur le terrain avec cette nouvelle association-là? Vous parliez de cotisation, de bourse. En ce moment, il n'y a aucun moyen de se défendre, c'est ça que vous me dites?
Ben non, en
ou
effet.
Ou de défendre certains dossiers pour...
C'est un petit peu le chaos. En ce moment, il y a environ 50% des centres d'éducation des adultes général et professionnels qui ont des conseils étudiants. Par contre, ces conseils-là, souvent, sont gérés de façon un peu chaotique, malgré la bonne volonté de tous les partis présents, ne sont pas nécessairement démocratiques. C'est ça que je veux dire. Souvent, ils vont servir, comme j'expliquais plus tôt, à des activités plutôt ludiques, là, comme des lavotos, des activités de financement au sein même pour faire des activités amusantes. Par contre, lorsqu'un étudiant vit des difficultés réelles, parce que les adultes ont des besoins particuliers, particulier. Mm-hmm. Pensons notamment à un parent monoparental qui retourne aux études. Pensons à un nouvel immigrant qui va devoir concilier travail, études, famille, apprendre la nouvelle langue. Bon, les possibilités sont infinies, les réalités sont différentes. Ces adultes-là ont besoin de s'incruster dans les instances décisionnelles pour orienter la mise en place de plans d'action, par exemple, gouvernemental, pour dire, nous, c'est ça qu'on a besoin, nous, c'est ça que ça nous prend ça pour pouvoir réussir, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir rester, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les adultes raccrochent, mais décrochent encore.
Ils ne se sentent pas interpellés dans le mode de fonctionnement ou disons qu'il y a des dossiers qui ne sont pas mis de l'avant et qui devraient l'être pour eux.
Il y a des lacunes. Puis si on ne prend pas le temps d'écouter les adultes qui se regroupent de façon démocratique, donc qui prennent des décisions en association, si on ne prend pas le temps de faire ça, c'est sûr qu'on ne va pas réussir à répondre adéquatement à tous les besoins de ces étudiants-là. On talonne, on dit qu'on a besoin d'augmenter le taux de main-d'œuvre au Québec, mais on ne permet pas nécessairement aux adultes de faire des choix, on ne permet pas de participer à leur vie associative qui devient en quelque sorte éducative en même temps aussi, parce qu'on forme des citoyens, mais on leur dit en même temps, vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir de citoyen. Donc, il y a un petit peu...
Alors, association étudiante, l'appel est lancé. Je passe maintenant le micro à Frédéric Lalande, directeur de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous parler un peu de votre coalition?
La Coalition des organismes communautaires en développement de la main-d'œuvre, qu'on va appeler pour la suite Coalition, regroupe en fait des organismes qui sont actifs en développement local et communautaire, en promotion et défense des droits, en insertion et développement des compétences liées à l'emploi, et aussi, j'oublie un secteur, en alphabétisation, formation des adultes. Donc, notre objectif essentiellement, c'est de regrouper tous ces regroupements-là ensemble et de développer un discours commun qui est en fait basé sur les droits et les besoins des personnes qu'on appelle éloignées du marché du travail. Alors, sous ce grand vocable-là, on recouvre les personnes immigrantes, les personnes handicapées, les femmes, les travailleurs expérimentés, des fois qui ont de la misère à se requalifier. En fait, toutes les personnes qui éprouvent des difficultés à accéder au marché du travail, la coalition a pour objectif de les défendre et d'améliorer leurs conditions.
Et là, vous œuvrez depuis combien de temps?
Depuis 6 mois.
Depuis 6 mois. Alors, c'est tout récent. Oui. Et là, de votre côté, bon...
C'est-à-dire, la coalition existe depuis
20 ans,
mais moi, personnellement.
OK. Je veux dire la coalition à ce moment-là. On s'est mal compris.
C'est bon.
Donc, oui, la coalition depuis 20 ans.
Ça fait presque 20 ans que ça existe.
OK. D'accord. On est sur les mêmes bases. Oui. D'accord. Alors, de votre côté, si vous aviez la chance d'améliorer le système actuel, quel serait votre premier geste concret?
Bien, en fait, c'est qu'il faut savoir que suite à la crise économique de 2008-2009, le gouvernement précédent a mis en place ce qu'ils ont appelé le Pacte pour l'emploi plus, qui était une injection de sommes assez considérables dans les services de formation, d'insertion en emploi, etc. Le problème avec ça, c'est que c'est pas nécessairement un problème, mais c'est un peu un problème en fait, c'est que c'était beaucoup dirigé vers les entreprises et les besoins des entreprises.
Donc pour stimuler l'économie du Québec.
Oui, c'est ça, c'était leur discours. Ça a plus ou moins bien fonctionné en fait, parce que le Québec s'en est bien tiré sur le plan du chômage entre autres. Le problème, c'est que nous, les gens qu'on représente n'ont pas subi d'amélioration de leurs conditions et en fait, ça s'est plutôt dégradé depuis 15 à 20 ans. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration du financement, il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance supplémentaire de la qualité du travail, par exemple, que font les organismes communautaires sur le plan de l'insertion en emploi. Et puis, nous, ça serait comme la grande demande de dire, vous avez aidé les entreprises à passer à travers la crise. Maintenant, il y a un contexte démographique que tout le monde rabâche sans arrêt. Qui demande donc que toutes les compétences et toutes les personnes soient utilisées et puissent accéder au marché du travail. Donc là, on dit, ces gens-là, ils ne vont pas y arriver tout seuls, il faut les aider. Et les organismes communautaires, souvent, font un excellent travail avec des taux de succès. On parle d'une moyenne de 75 % de gens qui, après un passage dans un organisme communautaire, parviennent à réintégrer le marché du travail d'une manière ou d'une autre. C'est ça, il faudrait reconnaître ce travail-là.
Donc, l'équilibre entre ce qui est offert en entreprise et ce qu'on pourrait aider. Parce que Daniel Barry, en parlant en début d'émission, c'était vraiment intéressant. De former les adultes, c'est une chose pour un emploi, mais il y a aussi la vie quotidienne qui entoure cet emploi-là. Ouais. Et vous, c'est un peu ce que vous demandez, finalement, qu'on améliore les compétences de littératie, de numératie. Ouais. Et je crois que le gouvernement du Québec là, s'en va un peu dans cette direction-là.
Ça fait un mois.
Selon les promesses électorales, on verra pour le reste.
C'est sûr que nous, pendant la campagne électorale, on a produit un document d'information à l'usage de nos membres et du grand public sur les promesses des partis sur ces enjeux-là. C'est sûr que le programme du Parti québécois était relativement intéressant sur ces enjeux-là. Puis après, il faut qu'effectivement, il y ait une question de leadership qui, en ce moment, est plus ou moins floue, en fait. Donc, on attend de voir la suite.
Merci beaucoup à vous. Et j'accueille aussi maintenant Luc Allaire, qui est conseiller à l'action professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec, alias la CSQ. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous représentez qui exactement, vous, à la CSQ, dans l'univers de l'éducation aux adultes?
On représente du personnel professionnel, du personnel de soutien et du personnel enseignant dans les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle, les cégeps. C'est principalement dans ces secteurs-là qu'on est présent dans le secteur de l'éducation des adultes.
Et là, je vous nomme ministre demain matin de l'éducation. Vous chapeautez ce dossier des adultes, de l'éducation aux adultes. Quel est votre premier geste concret?
Bien, première chose, ce serait de favoriser l'alphabétisation. Au Québec, il y a 800 000 personnes là, qui sont quasi analphabètes. En 2000, dans les objectifs du millénaire, le Québec a signé un engagement comme quoi, d'ici 2015, c'est dans 3 ans, ça, il y aurait la moitié de moins d'analphabètes. En 2011, ils ont répété leur engagement en disant qu'ils le tenaient jusqu'en 2015. Et là, on n'a pas vu l'ombre d'un geste qui a été fait concrètement. Il y a beaucoup de paroles. Il faudrait passer à l'action. Maintenant. C'est un exemple, il y en a d'autres. Donc, si j'étais ministre, ce serait de passer de la parole à l'action.
Et là, bon, le changement de gouvernement risque de ralentir ce plan-là parce qu'on doit relire les dossiers, vous disiez, il y a un plan, il n'est pas en action, c'est un plan des libéraux. Est-ce que le gouvernement du Québec va avoir la même vision que les libéraux? Ça, c'est une autre question. Donc, pour vous, c'est un retard là, qui risque de s'allonger. Là.
Il y a une politique gouvernementale d'éducation des adultes et de la formation continue qui a été développée en 2002, qui avait fait un consensus dans tous les secteurs. C'est très rare, là, dans le domaine de l'éducation des adultes, qu'il y avait consensus à la fois des patrons, le conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce, les manufacturiers exportateurs, des syndicats et du gouvernement pour dire oui, c'est un enjeu important et on a développé un plan d'action. C'était, la politique en 2002 a été développée par le Parti québécois. Il y avait eu un plan d'action quinquennal, le plan de 2002 à 2007, qui a relativement bien fonctionné. Il y a eu des actions importantes qui ont été faites. En 2007, on devait faire le bilan de ce plan-là pour voir comment on poursuivait. Le bilan n'a pas encore été fait. On est 5 ans plus tard, il n'y a toujours pas de bilan. Et là, on arrive, donc le deuxième plan quinquennal, on a passé par-dessus. Et là, on espère que, vu que c'était une politique du Parti québécois, que le Parti québécois reprenne ce plan d'action-là et aille de l'avant maintenant.
Et qu'est-ce qui aurait dû être mis en place entre 2007 et 2012 et qui finalement n'a jamais été réfléchi ou...
Bien, c'est très vaste. L'éducation des adultes, on parle des gens qui sont éloignés du marché du travail, on en parlait un peu plus tôt, mais on parle aussi des travailleurs en emploi qui veulent se former davantage. Si vous êtes un gestionnaire d'entreprise et que vous voulez aller faire une maîtrise en gestion, il n'y a aucun problème. Toutes les universités vont vous ouvrir leurs portes, ils vont vous accommoder dans votre horaire, et ils vont tout faire pour vous avoir comme étudiant. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais ils vont s'occuper de vous. Si vous êtes un chauffeur de taxi qui voulait être soudeur, là, c'est impossible. On va vous demander de lâcher votre travail et d'étudier à temps plein parce que la formation à temps partiel, ça n'existe pas. Ni dans les centres de formation professionnelle, il n'y en offre pas de formation à temps partiel. Alors nous, on trouve que c'est une iniquité pour les gens qui ont le plus de besoin de formation, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de diplôme post-secondaire, qui eux n'ont pas accès à la formation à temps partiel. C'est bien beau d'avoir des discours sur l'éducation des adultes, mais encore faut-il que les gens qui en ont le plus de besoin y aient accès. Et ça veut dire que les adultes puissent y avoir accès à temps partiel. Et ça, c'est un drame au Québec. On ne donne pas accès à la formation professionnelle à temps partiel. Et la même chose au cégep, la formation continue. Il y a tellement peu d'argent qui est investi en formation continue que les seuls budgets qui arrivent vont pour la formation à temps complet.
Et bon, je sais, Colette nous en parlait, Colette Bernier, un peu plus tôt aussi à l'émission, elle parlait de congés financés par le gouvernement pour aller justement étudier sur le terrain, parce que vous parlez de formation à temps partiel, mais si jamais on doit se concentrer davantage sur notre formation, je crois que c'était en France, elle nous parlait justement de congés financés qui permettraient, un peu comme des bourses finalement, pour aller sur le terrain pour les éducations aux adultes. Est-ce que ça existe ici en ce moment?
Non, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de congés d'éducation-formation. On le souhaite. Mais concrètement, là, je pense que là, actuellement, ça serait un peu rêvé. Là. On peut rêver, on a le droit et on le souhaite, mais à court terme, il y a un consensus partout de permettre une formation à temps partiel. Ça coûterait pas cher. On pourrait l'offrir maintenant. Alors, pourquoi on ne l'offre pas? Le congé d'éducation-formation, une fois que ça va, on va réussir à enclencher ce phénomène-là, une fois que les gens vont avoir pris goût à la formation, je pense qu'on va avoir une demande encore plus grande. Et là-dessus, je peux vous dire que le Québec, on se situe 10e province sur 10 en matière de formation de la main-d'œuvre. En 2002, quand on a fait le plan d'action, le Québec était 9e. On trouvait que c'était un scandale.
Et depuis, et là, on est rendu
depuis 10 ans, on a été dépassé par
Terre-Neuve. Et qui performe le mieux dans les provinces canadiennes? Peut-être qu'on pourrait emprunter leur plan et...
Bien, c'est à l'ouest du Québec. Là. L'Ontario performe très bien. Juste vous donner un exemple, dans un collège communautaire, si vous entrez dans un collège communautaire, la moitié, c'est des jeunes, puis l'autre moitié, c'est des adultes. Il y a autant d'adultes qui étudient que de jeunes. Un peu comme à l'université ici, quand on regarde le nombre d'adultes qui vont se former. Mais si vous allez dans un cégep, par contre, en formation continue, il y a très, très peu de personnes qui vont se former parce que les portes des cégeps ne sont pas ouvertes aux adultes. Alors, c'est un exemple concret là, où on voit qu'on permet, il y a des institutions qui existent, on a des centres de formation professionnelle qui sont très bien équipés, on a des cégeps qui, en formation technique, sont très bien équipés. Pourquoi on n'ouvre pas la porte de ces centres-là pour les adultes qui souhaitent se former?
On ira faire une petite visite en Ontario là, pour qu'ils nous montrent leur démarche. Eh bien, Luc Allaire, conseiller à l'action professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Frédéric Lalande, directeur de la coalition. Ben oui, j'avais direction sur ma feuille. Ben c'est directeur de la coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre. Merci beaucoup.
Merci.
Et également Catherine Jasmin, secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation. Merci à vous.
Merci.
J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel. Un fichu caractère, j'suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis, j'ai donné des ulcères à mon père pis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas. Il se livrait lui-même à la SPCA. Hey! Hey! Trop mauvais caractère, j'vais changer de profession, j'vais devenir mercenaire, aubaine gardienne de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand j'viens de me lever. Pour me calmer les nerfs, j'avale 40 cafés. J'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après une heure et quart, elle se rhabille pas, prend le bord. Un soir pendant un show, il y avait un grand nono. Il parlait un peu fort, il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J't'allais de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer. Laissez-moi pas tout seul, 5 minutes avec moi. J'ai mauvais caractère. consulté un psy pendant un an et demi. Le pauvre en pouvait plus, ça fait qu'il s'est pendu. J'ai mauvais caractère, un fichu caractère. Va finir en enfer. Ok, c'est fini.
Jusqu'à 14h sur les ondes de CIBL, vous écoutez Pour un Québec apprenant avec Marc-André Carignan.
Et tel que mentionné brièvement en septembre dernier lors de notre première émission de Pour un Québec apprenant, eh bien, il y aura un grand happening au printemps prochain. Un happening qui prend le même nom que notre émission Pour un Québec apprenant. C'est présentement en chantier. On va en discuter rapidement avec Daniel Barry, qui était notre premier invité aujourd'hui, chargé de projet à l'analyse des politiques en éducation aux adultes à l'ICA. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors tout d'abord, pourquoi une telle journée?
On sent, à peu près à tous les 15 ans, il y a un grand cycle dans le développement des politiques en éducation des adultes. Il y a des grandes orientations qui sont faites, il y a des praticiens qui développent toutes sortes de choses, et on sent le besoin à peu près à tous les 15 ans, depuis les années 60, de faire le point, de réunir toute cette grande diversité-là, arc-en-ciel de l'éducation des adultes dans un même lieu, pour discuter, faire le point, regarder ce qui se passe, regarder les défis, prendre conscience de ce qui nous rapproche, mais aussi de ce qui peut nous éloigner, et finalement de se réunir autour de grandes orientations pour que la société civile puisse rejouer l'ICA comme porteur de cette société civile-là, un rôle de leadership dans le développement des politique en éducation des adultes.
Et ça se tiendra quand exactement?
Le 30 et 31 mai, et c'est précédé à partir du mois d'octobre, fin octobre, à partir de notre Assemblée générale le 24 octobre, d'une grande consultation des milieux. On a pu entendre aujourd'hui, on entendra dans les 8 prochaines émissions, cette grande diversité-là en éducation des adultes. Donc, pour l'ICA, c'est important d'aller entendre les différents réseaux et d'essayer de faire remonter des grandes préoccupations rassembleuses, fédératives, pour pouvoir adopter ensemble un grand plan d'action qui pourra être après communiqué à tous les acteurs, tous les réseaux et nommément le gouvernement.
Et là, pour nos auditeurs en ce moment qui seraient peut-être intéressés à votre grand happening, il va se passer quoi exactement là-bas?
Pendant cette rencontre-là, on va faire acte de ce qu'on a entendu dans les prochains mois, donc dans les 6 mois précédant l'happening, des grandes préoccupations que je ne peux pas vous communiquer maintenant parce que...
C'est
en chantier. Et ce qu'on va essentiellement faire avec les gens, c'est de dire, partant de ces grandes préoccupations-là, comment on peut concrètement livrer la marchandise. Par exemple, s'il faut alphabétiser tout le monde, un coup que le constat est posé, un coup que la préoccupation est affirmée, c'est une chose. Maintenant, comment le faire? Monsieur Allaire, tout à l'heure, rappelait qu'on n'avance pas vite dans ce domaine-là, même s'il y a des grands engagements internationaux qui ont été pris pour 2015, de réduire de moitié le nombre de personnes qui sont peu alphabétisées. On avance à pas de tortue. Donc, répéter la préoccupation, c'est une chose, c'est le minimum qu'on peut faire, mais ce qui est nécessaire maintenant, c'est de passer de la rhétorique à l'action.
Eh bien, merci beaucoup, M. Barry. On aura la chance, bien sûr, d'en reparler plus concrètement dans les prochains mois à notre émission ici, donc le mercredi à 13h pour un Québec apprenant. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Pour animer l'information à Montréal, CIBL 101.5.
La saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, même celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime.
De la pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui.
Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien.
Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
De Bacaracol sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal avec la pièce Étrange. Eh bien, voilà, c'est ce qui conclut notre édition du 10 octobre 2012 à l'émission Pour un Québec apprenant. Je remercie évidemment tous nos invités qui se sont présentés au micro aujourd'hui. Luc Allaire, conseiller à l'action professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec. Frédéric Lalande à la direction de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre. Catherine Jasmin, secrétaire générale du Mouvement pour l'éducation aux adultes, Daniel Barry, chargé de projet à l'analyse des politiques en éducation aux adultes à l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes, et Colette Bernier, sociologue et professeure associée au département des relations industrielles de l'Université Laval. Merci beaucoup également à Carlo Bellomo à la mise en onde, et je rappelle que c'est une série d'émissions réalisées par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes. Bonne fin de journée. Ha ha!